Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
IDFM Radio, bonjour, bienvenue, ou rebonjour. Durant 30 minutes, c'est l'heure de retrouver le terrain. Nous sommes partis à Domfront-Poiret il y a quelques jours à l'occasion du concours culinaire, le trophée des Léopards. Nous découvrirons ce grand concours dans un instant à travers son initiatrice, les membres du jury, mais aussi nous écouterons le ou la gagnante. Nous vous ferons aussi découvrir la famille Pacori avec la ferme des Grimaud pour vous présenter le Poiret. Et juste avant, partons à Domfront en Poiret pour vous faire découvrir cette cité médiévale qui se trouve en Normandie avec notre guide conférencière Anne-Laure.
IDFM sur le terrain avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Et guide conférencière ici à Domfront depuis toujours?
Pas depuis toujours, mais on va dire ça, depuis 15 ans, visite en anglais. Et puis maintenant visite en français, guide conférencière avec la carte évidemment. Et né à Domfront.
Eh oui, ça se voit.
Merci, ça c'est un, et d'ailleurs un beau spécimen, n'est-ce pas?
Bien évidemment. Aujourd'hui on va visiter un petit peu le donjon, le château. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici à Domfront?
On va découvrir un donjon qui a 900 ans, sur un site qui a 1000 ans, et puis une cité médiévale avec des petites ruelles étroites et pavées, des petites cours, des petits passages secrets, des choses merveilleuses.
Extra, merci.
Mais rien. Ici, on est sur une place qui était une place de marché, puisque chaque place avait sa spécialité. On avait le marché au porc, on avait le marché aux fleurs, aux fruits et légumes là-bas. Ici, on avait le marché aux grains. Et on pense aussi qu'il y avait les halles. Et on pense aussi que c'est ici qu'on avait l'habitude de donner un spectacle particulièrement réjouissant, qui était les pendaisons, n'est-ce pas, hein? Voilà. D'où Domfront, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à 1h, même pas le temps de dîner. Je vous laisse cogiter là-dessus.
C'est très calme en tout cas aujourd'hui, c'est normal, nous sommes en pleine semaine.
Oui, et puis on est hors vacances, on est en pleine, encore un petit peu dans l'hiver, groggy, donc bon, ça va se réveiller. J'ai déjà aperçu pas mal de vélos, les Anglais, tout ça, ils arrivent à partir du 1er avril, donc patience, dans 2 jours, c'est le gros boom.
Il y a quand même ici pas mal de résidences secondaires ou pas? Non.
Alors, il y a énormément de résidences secondaires, justement de Britanniques, qui trouvent que c'est super cool de juste prendre le ferry. Ils ont 1h30 à faire en voiture et ils arrivent dans une maison qui leur a coûté rien, qu'ils ont restauré eux-mêmes, en plein cœur, avec un charme incroyable, ce que eux, ils paieraient 3 fois, peut-être 10 fois le prix en Angleterre, avec le calme, la sécurité. Il y a pas de problème ici à Domfront. Et tout le monde est sympa et tout se passe bien. Et on est en Normandie et en plus on mange bien. Alors pourquoi pas avoir une résidence secondaire ici?
Et qu'est-ce qu'on mange justement comme spécialité?
Alors comme spécialité, tout ce qui se fait de bien en Normandie, et vous remettez une bonne rasade de calvados par-dessus. Ça vous va?
Très bien, parfait. Merci beaucoup, avec modération. Et ce week-end, vous attendez aussi énormément de monde puisque c'est la fête des rameaux?
Oui, c'est la grosse foire exposition des rameaux. Il y a une fête foraine. Il y a des exposants qui viennent de toute la France. Il y a un vide-grenier. C'est la première grosse fête de la saison, donc on attend effectivement énormément de monde de toute la France. Ça va être super sympa, ouais.
Ici donc cité médiévale, c'est pour ça tous ces panneaux, 4 coins des différentes rues de Domfront.
Eh ben regarde là, on est juste devant quoi, une probablement elle est en train de se battre avec une autre maison dans la cité médiévale, mais c'est probablement l'une des plus vieilles de la ville. T'as une marque là, MDXV. Ça fait 1515.
Merci.
Alors, on n'est pas certain que, voilà, que ce soit cette date-là, mais on n'est pas loin. Et c'est une maison qui est donc en encorbellement. C'est-à-dire que l'étage s'avance un tout petit peu sur la rue. Elle est en colombage typique, c'est-à-dire de la paille mélangée avec de l'argile et de l'eau. On a du bois, du châtaignier pour se protéger des bestioles. On a un solin en pierre, en grès armoricain pour éviter l'humidité. Et regarde, l'angle là, il est recouvert de bardeaux, ce qu'on va appeler ici des essentes. C'est du châtaignier qui va protéger l'angle le plus exposé à la pluie. Donc cette maison-là, elle est typique. Et regarde, en plus, elle descend en même temps que la rue. Et quand tu es à l'intérieur, eh ben, tu as des marches à passer pour pouvoir pallier la pente de la rue direct.
Ça appartient à qui? À la ville, justement?
Ça appartient à un Anglais.
D'accord, mais parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas tellement de rideaux.
Alors, à l'intérieur,
ça a abandonné.
À l'intérieur, c'est pas habitable. Il est en train de la restaurer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est en train de la restaurer à l'intérieur, lui-même avec ses petites mains. La façade est très, très belle. À l'intérieur, c'est pas habitable encore, mais bientôt.
Et pourquoi il y a des affiches du château de Guédelon?
Parce que Dieu, il est très fan de ça parce que il veut encourager les gens à aller voir ce type d'initiative qui est de restaurer comme au Moyen-Âge.
Les commerces ouvrent à quelle heure en règle générale ici? Là, il est presque 9h.
Ça dépend, 9h, 9h30, 10h.
On est tranquille. Il y a un coiffeur, par exemple, il y a une boulangerie, il y a une église, il y a tout ça ici.
Bah là, on est dans le centre ancien, donc c'est un petit peu plus spécifique, puisque il faut vraiment vouloir rentrer dans le centre ancien. Les gens passent plutôt sur l'axe est-ouest, qui est un petit peu plus bas, qui est au pied de la ville. Ils pénètrent moins dans cette partie-là.
Ah, ça cause, hein, ça parle. C'est qui le monsieur derrière?
C'est qui le monsieur
du manoir La Chalerie?
Bonjour.
Que sa restauration soit incluse dans le programme.
D'accord. Il est où le manoir?
Il est sur la commune, et c'est un centre de tourisme médiéval d'Enfanté bien connu.
Donc vous rencontrez les habitants qui vous interpellent régulièrement aussi, Anne-Laure?
Ah bah oui, Pierre-Paul,
qui
il vient régulièrement
aussi,
à l'office, bien
des
sûr.
Anecdotes.
On travaille avec lui énormément et aucun souci, ouais, tout se
et
passe très très bien.
Ça aussi à
nos visites. Ah mais bien sûr, ah bah on y va tout le temps chez Pierre-Paul. On y passe tout le temps et on envoie les gens tout le temps chez lui.
Et on boit du poiret.
Chez lui? Bah je sais pas, faut lui demander s'il en a mis au frais.
C'est quoi le poiret justement aussi? C'est une boisson locale?
Alors le poiret, c'est... Pour faire très court, c'est du cidre, mais avec de la poire, avec des poires bien spéciales qui sont du plant de blanc. On va prendre à droite, comme ça, on va aller voir les petites rues sympas. Hop là.
Là, il y a des travaux. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ben justement, c'est dans le projet de valorisation touristique. Là, ils sont en train de restaurer l'immeuble qui était là, qui appartenait à un privé, mais qui était un peu mis à l'abandon. Donc, ça va être restauré pour faire des hébergements, peut-être des commerces, des choses comme ça.
Et ça c'est la ville qui porte ça. Ça change tout le temps ici, en fait. Hein.
Mais oui. Eh oui, comme ça a été fait.
Vous avez fait ici.
Juste derrière, là, maintenant, c'est...
Où il y a la boulangerie, c'est une boulangerie?
C'est un traiteur, ouais.
Un traiteur, d'accord.
Ouais, tout à fait. C'est un traiteur, voilà. Donc, ça n'arrête pas. Il y a des projets dans tous les sens. Il y a de très très belles choses, de très belles initiatives. Et puis, alors là, encore une fois, on est hors saison, mais quand on vient en été, il y a des concerts, il y a ce qu'on appelle les siestes bucoliques, c'est génial. On a un transat, vous voyez, une chaise longue, et il y a un petit concert d'une heure dans un petit jardin de la ville, par exemple.
Avec des groupes locaux?
Avec oui ou pas forcément. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la grande rue? On a des maisons en grès armoricain, on a des maisons recouvertes d'essence, on a des maisons en colombage, on a évidemment des maisons plus récentes parce que bah oui, la ville elle a évolué, mais principalement on a une rue étroite, voilà, toute étroite comme ça, qui est pavée tout le long, et en fait cette rue elle traversait la cité de A à Z, d'une porte d'entrée à l'autre. Et là tu vois, on va prendre le petit passage qui est là. Et on va voilà. Allez, voilà. Allez, bye bye. Alors là, on est où? On est dans une petite cour qui est une cour publique. Tout le monde a le droit de venir ici. Et d'ailleurs, vous avez vu personne, mais tout le monde vous a vu. C'est habité. Vous avez des maisons partout, des appartements. Vous avez un médecin, vous avez un artiste. Vous avez une tour ici, une tour qui est une tour d'escalier qui permet d'accéder à des hôtels particuliers, puisqu'à l'époque, on avait des hôtels particuliers. Alors, quelle époque? On est plutôt 16e, 17e, hein. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui habitaient, comme on l'a vu tout à l'heure, le château de Pierre-Paul. Bah, c'est quoi le château de Pierre-Paul? C'est quelqu'un qui a été anobli et qui s'est installé dans la campagne avec ses propres terres, etc., son fief, en quelque sorte fief de Aubert. Mais il avait quand même de temps en temps des choses à faire en ville. Et donc quand il venait en ville, il avait sa résidence secondaire. Donc on en a une ici. Et puis là, la tour, elle permet de donner accès à la résidence secondaire ou l'hôtel particulier ou la martinière de l'autre côté. Voilà. Donc ça a été repavé en 99. Ça a été refait aussi il y a quelques années. Et c'est un endroit... Alors voilà, justement, on parlait des concerts et des animations. Ici, l'acoustique est absolument phénoménale. Voilà. Non, je ne pousserai pas la chanson.
Oh, dommage.
Il y a quatre parties dans Donfront. Il y a évidemment la cité médiévale, donc qui, elle, s'est fondée à l'ombre du château et fortifiée au 12e, 13e siècle avec les remparts et les tours. Ensuite, on a ce qui est hors les murs et qui a été un petit peu reconstruit à partir de la guerre, parce que ça a été légèrement bombardé, un tout petit peu, hein, très très peu. C'est l'une des seules cités médiévales de Basse-Normandie, je précise, hein, mais parce qu'on a été pas mal bien épargné. Et donc on a cette partie qui entoure la cité médiévale avec des maisons plus récentes. Après on a le quartier Notre-Dame qui est tout en bas avec l'église Notre-Dame sur l'eau et l'hôpital, enfin le centre hospitalier et donc tous et la gare et tout ça. Donc ça s'est développé. Ouais, il y avait une gare, il y a eu une gare jusque dans les années 90, malheureusement qui a fermé parce que il y avait plus tellement de voyageurs à s'arrêter. Il y a la ville de Saint-Front qui elle s'est fait englober par Donfront. Donc maintenant, Saint-Front, c'est juste un quartier. Et puis, vous avez toute la campagne. Parce que la campagne, les champs et tout ça, c'est encore Donfront. Et vous avez plein de gens qui habitent dans des petites maisons comme ça, dans les alentours. Donc finalement, nos habitants, ils sont très dispersés dans une superficie assez énorme dans les alentours.
À quelques jours, à quelques heures des vacances, nous vous faisons découvrir aujourd'hui la destination de Domfront-en-Poiret, cité médiévale qui se trouve en Normandie. Nous étions un instant avec notre guide conférencière Anne-Laure et dans un instant, vous découvrirez le trophée des Léopards, un grand concours culinaire qui s'est tenu le 29 mars dernier, sélection amateur 100% normand. Nous aurons à notre micro l'organisatrice et quelques membres du jury. C'est dans un instant sur le terrain, IDFM Radio.
Je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des soubédoubés.
Marie-Sauce, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir pour cette troisième édition d'un grand concours culinaire. C'est le trophée des Léopards. Et cette année, vous avez choisi Domfront. Pourquoi ?
Alors, pour la première étape, on a choisi Domfront parce que c'est une cité médiévale et qui est importante pour la région Normandie. Et chaque année, on essaye de tourner dans les différents départements de la Normandie. Donc, l'année dernière, les finales sont toujours à Caen, à l'Abbaye aux Dames. Mais on tourne dans les différents départements. On a fait la Manche, l'année dernière on était en Seine-Maritime, et cette année on est dans l'Orne.
Vous nous faites voyager un petit peu partout, aux quatre coins de la France en quelque sorte.
Aux quatre coins de la Normandie.
Voilà,
aux quatre coins de la Normandie.
Pour nous faire découvrir en tout cas des spécialités, des ingrédients que les candidats vont cuisiner aujourd'hui dans une ambiance aussi musicale, le folklore normand.
Exactement, c'est vraiment 100% Normandie, valoriser les petits producteurs, les produits d'exception de la Normandie. Et puis, bah oui, dans une ambiance assez particulière, hein, on joue vraiment la carte de la Normandie et ça rayonne au niveau national.
Vous avez parlé de la finale, donc c'est 31 mai.
C'est les 31 mai et 1er juin, absolument, donc au siège de la région Normandie, à l'Abbaye aux Dames à Caen. Donc pour les trois catégories de concurrents, amateurs, professionnels et apprenants. Et puis on a un superbe marché, un grand marché, le marché des Léopards, dans les jardins de l'abbaye.
C'est chouette en tout cas, les odeurs sont là, de la couleur un peu partout. Il y a combien de cuisiniers amateurs aujourd'hui qui participent à ce concours ?
Alors aujourd'hui, 6 candidats ont été sélectionnés sur dossier. Les sélections se font uniquement sur dossier pour toutes les catégories. Et donc là, ils sont 6 à s'affronter pour la place en finale fin mai.
Et où sont les Léopards aussi ? Du coup, pourquoi l'avoir appelé ainsi, ce trophée des Léopards ? Parce que c'est l'emblème aussi d'ici.
Alors les Léopards, ça s'appelle le trophée des Léopards tout simplement parce que c'est en référence au drapeau normand. Souvent, tout le monde pense que ce sont des lions, mais ce ne sont pas des lions, ce sont des Léopards, en référence à Guillaume le Conquérant, entre autres, etc. Voilà.
Et quel est le but aujourd'hui de cet événement pour vous, puisque vous êtes à l'initiative, on voit beaucoup de concours à la télé, tout ça, ça plaît de plus en plus aussi.
Bah, l'objectif, en tous les cas, de celui-là, parce que je fais beaucoup de concours, celui-ci, c'est vraiment de faire rayonner la Normandie, qui est quand même très très riche hein, en termes de produits. Alors bien sûr, il y a aussi des chefs hein, normands qui sont exceptionnels. Voilà, c'est vraiment de faire rayonner la Normandie, ce territoire très très riche au niveau national et peut-être même plus loin.
Il y a un jury, il y a des chefs qui sont les membres du jury, qui sont les chefs aussi. On voit une sorte de brigade, oui, qui surveille en quelque sorte, qui regarde si les candidats préparent bien la recette. Avec combien d'ingrédients ils ont droit à utiliser ? C'est imposé, bien évidemment, hein, la recette que vous proposez aujourd'hui.
Alors, ils ont en fait, dans le règlement général, il y a un économat qui est très très important, par type de produit, la cave normande, la crèmerie, etc., les légumes, etc. Donc, ils doivent choisir obligatoirement dans cet économat-là, donc que des produits normands, et nous présenter donc leur dossier sur le thème qu'on a imposé, l'Ivaro, etc.
Quoi l'Ivaro, pardon ?
Le Livaro, le colonel, c'est un bon fromage normand. Et sur le jury, donc vous avez deux types de jury. Vous avez ce qu'on appelle le jury technique, donc ceux que vous avez appelés la brigade. Jury technique note sur la façon de travailler, sur l'hygiène, entre autres, sur tout un tas de critères. Et là, le jury dégustation, là, c'est autre chose. C'est vraiment le goût, le mariage des saveurs, les textures, etc. Donc là, c'est deux jurys complètement différents. Et dans le jury, vous avez un jury assez prestigieux, composé de chefs étoilés, du président, bien évidemment, de la région, M. Morin.
Ancien ministre.
Oui, absolument. Tout à fait. Vous avez des chefs étoilés de Normandie, vous avez des chefs qui viennent un peu de partout, Paris, etc. Des grands noms.
Le poiret, par exemple, est inclus dans la préparation de la recette.
Exactement.
C'est le cidre d'ici, c'est ça ? C'est un peu du cidre, mais avec de la poire.
C'est un peu ça, effectivement. C'est un peu la même chose, qui n'est pas très très connue, mais qui est juste exceptionnelle et qui est imposée, effectivement, aussi dans l'économat général.
Il y a à chaque fois un parrain.
Ça change. Alors, vous avez le président d'honneur, cette année, c'est Stéphane Carbone, donc qui est chef propriétaire de deux établissements sur Caen, donc restaurant Stéphane Carbone, et l'Espérance à Hérouville-Saint-Clair, donc Stéphane que vous avez croisé qui était là. Et ensuite, les jurys viennent d'un petit peu partout, donc vous avez des meilleurs ouvriers de France, donc Pierre Caillet qui est à Valmont, le restaurant Le Bec au Cochois, qui est étoilé et qui est meilleur ouvrier de France. Bernard Leprince qui est meilleur ouvrier de France également. Vous avez Franck Quinton, le manoir du Lys étoilé, ils sont tous là, il y a un très très joli jury, mais qui changera un peu aussi sur les finales. On essaye de faire découvrir à l'ensemble de la profession cette richesse du territoire normand.
Très bien, merci en tout cas de nous faire découvrir cette richesse, justement, de nous faire découvrir aussi cette cité médiévale d'Onfron. Et puis à tout à l'heure, à plus tard, puisque ce soir, nous connaîtrons le ou la gagnante.
Exactement, ce soir à 18h, les résultats sont annoncés.
Élodie Évrard. On tient le restaurant La Vraie Vie avec mon compagnon Mathieu Évrard. À Caen, on est l'ancienne place des Petites Boucheries, rue Saint-Martin.
Alors ça y est, vous avez dégusté les différents plats et entrées. Comment un petit peu s'est passé cette dégustation? C'était pas votre première, je pense?
C'était ma première.
C'était la première fois que vous participez à un
tel concours. C'est ça, où je suis jury d'un grand concours avec des chefs étoilés. Ça fait un peu peur, mais en même temps, je suis très contente d'être là. Non, ça s'est bien passé. Franchement, on pourrait penser qu'ils ne sont pas que des amateurs parce qu'on a très bien mangé. C'est original. Les cuissons étaient plutôt bien. Donc non, franchement, je suis contente.
Qu'est-ce que vous avez goûté? De la viande, des légumes? Je crois qu'il y avait une entrée végétale.
Oui, entrée végétale autour de l'haricot de Pont-Audemer, chose que je ne connaissais pas avant d'arriver ici. Donc c'est chouette. Ça nous fait découvrir des petites choses. Et il y avait haricot et surtout le livaro qui était mis en avant et sur l'entrée, sur le plat.
Ça vous donne justement des idées pour intégrer ce haricot et ce fromage par la suite dans vos recettes?
Ouais, exactement. Le haricot, on va essayer d'en trouver de Pont-Audemer. C'est vrai que c'est chouette d'avoir ça. Et puis le livaro, oui, on utilise déjà pas mal le livaro au restaurant, mais peut-être pas sous ces formes-là. Donc ouais, ça donne des idées.
Comment vous faites pour déguster quand même tous ces plats? Alors, ils arrivent comme ça, presque à la chaîne. C'est juste de la dégustation. Vous reprenez une petite gorgée d'eau et puis vous passez à une autre entrée, par exemple?
Oui, c'est un peu ça. On prend, et puis ça va vite, toutes les 5 minutes. Donc c'est vrai qu'on ne mange pas tout, heureusement. Mais après, ça va, c'est presque sur l'heure du midi. Donc au final, ça fait comme notre déjeuner. Mais ouais, une petite gorgée d'eau et puis on essaye de déguster et tout avec un palais neuf, si je puis dire.
Ça y est, vous avez, vous, plus ou moins votre idée en tête de celui ou de celle qui repartira avec le prix?
Oui, enfin, je ne sais pas qui, parce que je ne suis pas toute seule à choisir, mais il y a 2-3 personnes qui sont sorties du lot. Donc non, franchement, c'est bien. Il y avait des beaux candidats et candidates surtout.
Et vous, en règle générale, vous êtes plutôt entrée, plat, sucré, salé, viande, poisson?
Moi, je suis plutôt sucrée. Je suis pâtissière de métier et puis je vais un petit peu en salle aussi. Donc je fais les deux métiers, mais je suis plutôt sucrée.
Comme quoi? Comme type de dessert?
Comme le Paris-Brest, mon dessert préféré, ou au restaurant on fait un soufflé au chocolat qui est assez connu maintenant dans Caen, donc qu'on ne peut plus enlever de la carte depuis 3 ans. Un soufflé, chose qu'on ne fait plus beaucoup dans les restaurants, on y tient beaucoup.
Chef Arabien, bonjour.
Bonjour.
Tout s'est bien passé ici pour cette nouvelle édition du trophée des Léopards. C'était votre première participation ou pas?
Pas du tout, c'est la troisième.
Ah oui, vous étiez là
donc, il faudrait peut-être
au début.
Vous renseigner.
Oui.
Ah,
tout à fait. Vous avez
avant de
raison.
Commencer à me poser des questions.
Chef à Paris aussi, une petite sorcière.
Oui.
Donc vous êtes venu en Normandie pour participer à ce concours et déguster des entrées, des plats, trois fois de suite. Vous avez enchaîné, donc c'est toujours un bel événement, c'est toujours une belle occasion aussi
c'est
de rencontrer des amateurs.
Organisé, surtout.
très bien organisé, ça c'est génial.
Vous avez déjà eu quelques coups de cœur pour un des plats, il y en a 6 qui ont été présentés, 6 entrées aussi, déjà des petites choses qui vous ont...
coup de cœur.
Et alors, pour qui?
Non mais je rêve l'autre là. Ça coûte très cher les renseignements, attention.
Donc c'est ce soir de toute façon que
c'est très chouette. Voilà, si c'est tout le monde a eu le même cœur que moi, ça va être chouette.
Les critères, c'était impérativement, de toute façon, présenter un plat, une entrée, un plat.
Avec un ingrédient important. Un ingrédient. Il fallait que des produits normands, mais un ingrédient qui devait obligatoirement apparaître, c'était de l'Ivaro.
Et comme tout type de concours, il y a un temps aussi. On a une heure pour faire une entrée.
Ils avaient un temps pour une entrée, un plat qui était de 2h30, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 2h30 ou 3h. 2h30 peut-être. Et puis après, ça se succède. Et là, nous, on sort de là écroulés.
Parce que vous avez trop mangé.
Parce qu'on a trop mangé, parce qu'on a envie de manger.
Et puis après, vous remangez un vrai repas.
Voilà.
Parce que c'est vraiment que de la dégustation.
Que de la dégustation.
Parce que c'est pas possible de manger une entrée entière comme ça. En plus, il y en a 6.
Non, on peut pas. C'est pas possible. Alors, ceux qui l'ont pas fait souvent, ils se précipitent sur la première assiette. Soit c'est bon, arriver à manger comme ça. Et puis à la fin, il n'y a plus rien, quoi. Non, un petit peu comme ça.
Et fin mai à Caen, donc ça réunira différents candidats d'un petit peu partout.
Déjà, ça va réunir d'une part des amateurs et d'autre part des professionnels.
Merci beaucoup.
Très très belle, très 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 belle compétition.
Merci, chef Arabian.
Merci, chef
Christophe.
Chef Micro.
Chef Micro. Ouais.
Merci, chef Micro. Christophe.
À bientôt.
À bientôt.
Merci
beaucoup.
Avant de vous dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante de la 3e édition du concours culinaire, le Trophée des Léopards, qui s'est tenu le 29 mars dernier en plein cœur de la Normandie, nous allons vous faire découvrir la ferme des Grimauds et surtout une dégustation du fameux poiret avec la famille Pacory.
Nous sommes avec la famille Pacory, bonjour.
Bonjour.
Le père. C'est ça?
Oui.
Je demande le fils qui est pas très loin.
Alors le fils est parti s'occuper des animaux pour l'instant, il est toujours sur la ferme.
En tout cas c'est une famille qui produit ici notamment le poiret depuis 1939. Nous sommes où plus exactement en Normandie?
Alors dans le Domfronté, c'est le sud-ouest de la Normandie, à Mantilly, une petite commune qui est bien reconnue pour ses poirets et ses poiriers.
Donc vous avez combien de poiriers ici?
Sur la ferme il y a plus de 20 hectares de plantés, ça représente presque 1000 poiriers et 6 à 700 pommiers, dont 800 que nous avons plantés nous-mêmes depuis une vingtaine d'années.
Et les vaches, quels sont l'usage aussi ici? Elles vous aident justement aussi à produire toutes ces bouteilles?
Alors les vaches, évidemment, ce sont des vaches normandes qui adorent l'herbe, donc elles vont pâturer sous les arbres, donc elles nous entretiennent les vergers, elles taillent un peu le bas des arbres, elles participent en fait à la biodiversité du verger qui est très important pour une production dite haute tige de poire à poiret.
Est-ce que vous produisez aussi du jus de poire ou pas?
Alors oui, on fait des jus de poire plats mais aussi pétillants, qui permettent aujourd'hui aux restaurateurs et aux cavistes d'avoir aussi des produits non alcoolisés de belle qualité, puisque les jus sont pas du tout traités et donc ont gardé leur côté complexité, astringence que l'on a dans la poire.
Quelle est la variété de poire que vous utilisez?
Alors on utilise surtout le plan blanc pour le poiret, mais on a une quarantaine de variétés sur la ferme et on adapte les variétés aux produits que l'on veut faire. Donc par exemple le jus de poire pétillant va être fait avec le blanc qui est la variété la plus acidulée de la ferme.
Ici vous proposez aussi des sortes de visites, vous faites découvrir un petit peu aux plus jeunes comment ça se passe, la transformation de ce fruit.
Alors si on vient à la ferme comme voyageur, on est reçu pour déguster et voir la ferme telle qu'elle est. Vous pouvez approcher les animaux, voir évidemment les poiriers. On organise aussi des réceptions autour des cars avec les écoles, certaines organisations de voyage.
Et vos bouteilles aujourd'hui sont vendues un peu partout dans le monde?
Oui, alors ce qu'on a voulu aussi garder, c'est une vente locale. On vend une bonne partie aussi de notre produit à nos voisins, aux paysans qui aujourd'hui ne font plus de poiret. Et on s'en va en vendre aussi au Japon et aux États-Unis depuis maintenant 5-6 ans.
Et je crois que ces poires, on ne peut pas les manger comme ça. Hein.
Ben, vous pouvez essayer, hein, tout se mange. Non, une poire qui vient de tomber, elle est tellement astringente, tellement riche qu'elle crée dans la bouche bouche une certaine agressivité qui va vous coller les papilles ensemble. Bien mûr, on peut la consommer, mais on se rappelle vraiment de ces poires à poirer.
Et ça dure combien de temps le processus? Donc cette poire qui tombe, vous la ramassez, bien évidemment. Ensuite, elle va passer par plusieurs étapes.
Alors, ce qui est important, oui, c'est de vouloir aller toujours dans la douceur et dans le temps. Donc, la poire va tomber toute seule d'elle-même quand elle se considère mûre. Nous, on considère qu'elle n'est pas assez mûre. On va la laisser mûrir au sol 2 ou 3 jours en fonction des variétés. On va la ramasser à la main. Et ensuite, ça nous permet encore de les stocker 1 jour ou 2 jours pour avoir la maturité optimum.
Et ensuite, la production, elle sort en règle générale. Est-ce que le ramassage des poires, c'est septembre, octobre?
Alors, le ramassage des poires, c'est septembre, octobre, novembre.
Comme les pommes de toute façon.
Oui, voilà, il y a des poires très précoces, des poires très tardives, donc ça dure longtemps. La partie pour le poiré, c'est plutôt fin octobre. Et ensuite, par contre, il y a les fermentations en cuve qui nous prennent aussi du temps, hein, qui durent en tout le mois de décembre, janvier. Souvent, les mises en bouteille sont faites en février sur des prises de mousse naturelles, levure indigène. Hein, ça veut dire que c'est bien la levure du fruit qui va permettre de transformer le sucre en alcool avant la mise en bouteille.
Et vous avez déjà mélangé la poire avec la pomme?
Alors, on a mélangé la poire avec la pomme. Alors déjà, on la mélange pour les jus de fruits pétillants parce qu'on a aussi le poire-pomme. Nous avons évidemment des calvados dans lesquels on distille de la poire et de la pomme. Pourquoi pas imaginer un cidre de poire qui assemblerait de la poire et de la pomme.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Suite et fin de notre émission sur le terrain sur IDFM, consacrée au trophée des Léopards. La finale, vous l'avez entendu, aura lieu à la fin du mois de mai. Nous connaissons, ça y est, le nom de la gagnante. Oui, il s'agit d'une femme de la 3e édition du concours culinaire, le trophée des Léopards, qui s'est tenu le 29 mars dernier. Voici notre rencontre avec la grande gagnante sur IDFM Radio.
Nathalie, félicitations, bravo.
Merci.
Alors comment ça s'est passé cette journée complètement folle?
C'était très éprouvant et en émotion, et c'était vraiment une superbe expérience, plein de bienveillance quand même.
Voilà. Le trophée des Léopards, donc première expérience aussi pour ce trophée, mais déjà auparavant peut-être d'autres concours culinaires ou pas du tout?
Non, pas du tout, c'est mon premier concours, et voilà, c'est mon fils et mon mari qui m'ont inscrite à ce concours pour que ma cuisine sorte du salon. Elle en est sortie et c'est avec un grand
Ils
bonheur.
Ils vous ont poussé, vous leur avez dit mais non, j'ai pas envie de le faire?
Non, ils m'ont pas poussé beaucoup quand même, j'avoue. Mais ils m'ont poussé un petit peu, et puis une fois que j'ai eu le thème, c'était parti. Là, voilà, c'était vraiment une expérience incroyable.
Pour rappel, c'est quoi le thème du coup?
Donc c'était le livaro, les haricots de Pont-aux-Mer et la viande de bœuf race normande.
Donc du fromage, de la viande et effectivement des légumes à mélanger, à mixer, tout ça, et ça a donné donc à la fois une entrée et un plat.
Tout à fait. En entrée, donc j'ai fait un risotto de haricots de Pont-aux-Mer au Pont-l'Évêque avec un palais glacé Olivaro. Et donc palais glacé Olivaro, risotto d'haricots de Pont-aux-Mer Olivaro et avec une sauce au calva, une tuile aux herbes et puis une huile d'herbe.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué finalement durant cette journée? C'est le temps aussi, il vous reste 5 minutes. Alors là, c'est le branle-bas de combat, c'est la panique.
Alors, c'est pas forcément le temps, mais c'est surtout le matériel. Moi, j'ai pas l'habitude, hein. J'ai un four comme tout le monde, 1, 2, 3, 4, voilà. Ça fonctionne 180 degrés et là le matériel, ça a été compliqué parce que je pouvais pas le maîtriser. Heureusement que j'avais beaucoup d'aide mais ça m'a fait quand même perdre du temps parce que je savais pas où en étaient mes cuissons et comment elles cuisaient dans des fours professionnels que je ne connaissais pas.
Et votre mari, votre fils n'ont pas pu être là aujourd'hui?
Non, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Après, c'était aussi une décision. Pour moi, c'était mon premier concours. Et comme je vous dis, quand je cuisine, normalement, je suis seule dans ma cuisine. Et peut-être que les avoir m'auraient remis une pression. Et je crois que, point de vue pression, j'étais au top déjà.
Par Bravo.
Contre, j'espère qu'ils pourront venir lors de la finale.
Bravo encore une fois. Et donc, première du concours de la 3e édition des trophées des Léopards ici à Domfront. À bientôt Nathalie, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
C'était sur le terrain depuis la Normandie. Nous vous avons fait partager notamment le concours du trophée des léopards et vous avez pu découvrir la destination de Domfront en Poiret, en plein cœur de la Normandie. À très vite, restez avec nous, suite de la musique sur la plus belle des radios valdoisiennes.